Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, saison 3, déjà l'épisode numéro 7, bientôt la centième. Et wow. Oui, en janvier, absolument. Une heure en série doit, je vous le rappelle, 55 minutes chrono pour débattre de l'actualité des séries. Et grâce à l'avis affûté, parfois, souvent incisif, mais jamais de mauvaise foi. Ça vraiment, c'est pas le genre de la maison. De nos chroniqueuses et de notre chroniqueur, oui, parce qu'il est minoritaire, nous allons pouvoir vous recommander le meilleur de la série télé. Et ce soir, nous parlerons Samovar et Esprit de déduction avec les aventures de Sherlock sur Salto, Espion du placard et Fierté LGBT avec Q-Force sur Netflix. Et enfin, rencontre du troisième type et Space Opera avec Foundation sur Apple TV.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Et en parlant de rencontres du troisième type, je les ai croisés, je les ai vus, ils existent. Ce sont les critiques,
pour de vrai,
c'est bien ça qui est terrorisant, les critiques d'une heure en série avec nous ce soir, Marjolaine Boutet de Phosphore. Bonsoir Marjolaine.
Bonsoir Xavier.
Ava Kahn, French Mania, je n'ose plus dire le nombre d'activités qui sont les vôtres cette année.
Je suis débordée.
Mais en même temps...
Mais je suis ravie d'être là et avec vous
aussi de
tous.
Vous accueillir et très fraîche encore. Ça ne durera peut-être pas, non, hein, plus l'année va durer. Et alors, bon, il a la fraîcheur incarnée, bien évidemment, malgré ses horaires matinaux.
Oui.
Le spectacle qu'il est en train de jouer, oui, c'est
en ce moment même.
Voilà,
ouais,
absolument.
Je suis sur scène et au
le
micro, c'est bien ça. Peur
catholique, mais oui, mais vous, de Benoît Lagan valent mieux qu'un, évidemment. Benoît Lagan.
Bonsoir.
Le 5-7 de Mathilde Munoz, le vendredi matin, et évidemment, télé matin. On a un peu de courrier.
Ah.
J'ai l'impression que les auditrices et les auditeurs se moquent de moi.
Ah.
Je ne sais pas pourquoi.
Vraiment.
C'est néanmoins le cas d'Adrienne. Qui m'envoie donc un message, objet néophyte. Déjà, j'aime beaucoup c'est quand bien. Même la terminologie de son message. Bonsoir, je suis une nouvelle auditrice de votre émission et elle me plaît beaucoup. Jusque-là, tout va bien. D'autant plus que je suis très en retard, je n'ai regardé Game of Thrones qu'en août dernier. Ava, vous pouvez le dire, ça n'est pas bien. Sinon, je vous ai entendu, le vous, c'est moi, galérer sur le mot mariage en anglais. Je vois pas pourquoi. C'était la semaine dernière, je pense que j'ai essayé autant de versions que j'ai tenté de prononcer le mot en direct. Alors, elle me dit, c'est normal. Ça, c'est gentil. Voilà, ouais. elle me remonte le moral. Essayez. Alors, elle m'envoie un moyen démotechnique, M-E-W-I-D-J-E, ce qui donne Marriage. Ben oui, ça
marriage.
Marche.
C'est bien.
Eh ben, ça marche. Merci beaucoup,
bravo.
Adrienne.
Ouais.
Voilà. Désormais, je vous enverrai un tout petit peu la liste des séries qui ont gardé leur titre en anglais et je vous demanderai de m'aider, évidemment, dans ce qui est pour moi une vraie difficulté. Mais je continue. Voilà. Autre message, celui de Pierre, qui est, nous dit-il, régulièrement d'accord avec vos coups de cœur et vos moods dubitatifs. J'attends d'ailleurs avec impatience que vous défonciez l'abject Squid Game qui flatte les bas instincts d'ado en manque de discours faussement subversifs. Autant Alice in Borderland, autre série de Netflix, n'était pas désagréable, autant ce carton planétaire est terriblement surcoté et mérite de se faire remettre à sa place. Eh bien, cher Pierre, n'attendez plus, ou presque, ce sera la semaine prochaine, effectivement, devant ce phénomène planétaire qui nous a un peu déconcertés, parce que ce qu'on avait vu n'était pas non plus extraordinaire, eh bien, nous avons décidé de faire un plateau télé donc dans l'émission du 23 octobre, qui sera consacré à l'analyse et de la série, et du fait qu'effectivement, elle connaisse un succès fulgurant, et pas nécessairement mérité. Le célèbre héros inventé par Sir Conan Doyle devient le personnage principal d'une série russe, à la fois fidèle, et réinventant le mythe, je parle des aventures de Sherlock sur Salto. Poursuivant jusqu'à Saint-Pétersbourg l'infâme Jack l'Éventreur qui a laissé à Londres le docteur Watson entre la vie et la mort, Sherlock, qui manie fort bien la langue de Tolstoï, décide une fois l'affaire du mystérieux serial killer résolu de rester un peu sur place. Exit donc l'Angleterre victorienne, remplacée ici par la Russie impériale et tout aussi autocratique de Nicolas II. Watson est échangé contre un médecin hautement dépendant à l'alcool, ayant fait la guerre de Crimée et vouant donc aux Britanniques une haine indéfinie. Et pourtant, ces deux-là vont s'unir pour traquer d'infâmes meurtriers russes qui n'ont rien à envier aux anciens ennemis de Sherlock.
Sherlock Holmes, je suis sur la piste d'un tueur que l'on surnomme Jack l'Éventreur.
Il n'y a aucune preuve ici. Tout a été vérifié.
Il y a toujours des preuves. Le croque-mort, c'est au bout de la rue. Vous pourriez nous aider à trouver le meurtrier. Il va tuer de nouveau, aujourd'hui même. Le monde est incurable, Holmes. Ne faites pas obstruction à la justice, monsieur l'anglais.
Votre don fait peur. Les gens doivent pas beaucoup vous aimer.
Tout s'enchaîne parfaitement, docteur. Mais pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses.
Les aventures de Sherlock, une série d'Oleg Molavichko, donc une série russe, c'est un peu pour ça que je l'ai programmée. Je trouvais ça assez savoureux de voir quand même l'emblème de la littérature britannique transposée à Saint-Pétersbourg. Donc d'après, je voulais rappeler l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, avec dans le rôle le titre le flamboyant, dans tous les sens du terme, il a une chevelure quand même, moi qui n'ai plus de cheveux, qui m'a un peu rendu jaloux, Maxime Matveïev, qui donc cheveux au vent, se réapproprie le rôle du célèbre détective. C'est historique, c'est mystérieux, c'est donc pour Marjolaine Boutet, bien évidemment.
Oui, effectivement, c'est Sherlock en Russie, hein, comme on pourrait avoir Tintin en Russie. C'est une série, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des enquêtes bouclées en deux épisodes, dans lesquelles on retrouve tous les ingrédients des aventures de Conan Doyle et même des nouvelles apocryphes, notamment dans le premier épisode.
Ouais, bravo.
Ah bah, il y a eu néophyte, moi je fais apocryphe.
Crable.
Et comme le premier épisode de Sherlock, donc contre Jack l'Éventreur, qui fait partie donc des classiques de la culture pulp, mais à la sauce russe. Puisqu'on nous parle quand même beaucoup d'alcool, de tsar, de datcha, de socialistes qui inquiètent énormément la police, et même de la conquête de la Sibérie qui est racontée en animation pour pallier le manque de moyens, qui est quand même assez criant dans la série, mais j'ai trouvé ça assez assez malin, et du coup ça donne à cet épisode donc sur la vengeance du Kélé une vraie poésie. Pour moi, ce qui manque quand même à cette série, c'est une vraie alchimie, une vraie connivence entre les comédiens qui permettrait de donner un peu plus de saveur à cette goulash. Non, c'est hongrois la goulash.
Oui, enfin en tout cas, ce ragoût à la sauce russe. Il y a effectivement pas de moyens, mais il y a une utilisation des décors naturels de Saint-Pétersbourg que je trouve assez réussie. Alors là où ils pouvaient tourner, bien évidemment, dans ce qui, mais la ville reste encore assez, dans certains quartiers, si ce n'est identique, en tout cas proche de ce qu'elle était à l'époque, que je trouve assez intéressante. Et l'immense décor dans lequel se déroule le commissariat, on va dire, est quand même assez stupéfiant. Mais j'aime bien cette référence à la Pulp Fiction. Je trouve que c'est plutôt malin, effectivement. Benoît.
Alors moi, je suis pas vraiment rentré dedans, hein, dans cette histoire. Ça m'a plus fait penser au film qui m'était tombé des yeux de Sherlock Holmes avec Downey Jr. qui
c'était formidable.
C'était kitsch.
Justement, moi, donc, le film était kitsch. Le côté un peu bagarre, j'ai retrouvé dans la façon de vouloir faire des jouer les bagarres. Effectivement, on est plus proche donc
oui, y a un emprunt.
Des films de Ritchie plutôt que de la série avec Jeremy Brett. Or moi, j'ai une tendresse particulière pour la série de Jeremy Brett. Après, j'ai mené l'enquête. Au départ, je me suis dit, c'est quand même folklore, quand même, cette histoire de Sherlock Holmes en Russie. Or, c'est une vraie tradition. Ouais, oui. Conan Doyle a été beaucoup adapté, pastiché à l'époque de Conan Doyle, donc en Russie. Et il y a même eu une série en 79, en 5 saisons. J'ai cherché, je l'ai pas vu. Hein.
Mais il a bien bossé.
De 5 saisons autour de Sherlock Holmes en Russie. Donc, finalement, ça doit être pour les Russes, finalement, un plaisir que de retrouver ce personnage. Donc, pour eux, ça doit être plaisant, chouette de retrouver ce personnage. Je suis d'accord avec vous, Xavier, sur les décors, sur l'ambiance, même si à un moment donné trop de jeux d'ombre et de lumière, à un moment donné ça fatigue, de la même manière que ces bagarres et cette musique omniprésente. Ensuite, c'est sympathique. Gros regret quand même, c'est que au début de la série, Watson, bon, n'est pas là, donc il est remplacé par un russe, hein, forcément, et qui n'est pas du tout à la hauteur du Watson qu'on aime bien. Donc il n'y a pas cette porte d'entrée géniale entre Holmes et ce docteur russe qui aurait pu être beaucoup mieux travaillé.
Oui, mais il ramène quand même l'ailleurs de Crimée, il ramène une dimension historique qu'on a un peu oubliée, qui existe dans les romans de Conan Doyle, hein, effectivement, et qui, je trouve, n'est pas inintéressante.
Oui, c'est bien de revenir effectivement sur la rivalité entre l'Angleterre et la Russie. Alors, il y a la Crimée, mais il y a aussi l'Afghanistan, parce que on l'oublie aussi, mais à la fin du 19e siècle, la première guerre européenne en Afghanistan avait opposé l'Angleterre et la Russie avec autant de succès que les guerres d'Afghanistan qui ont suivi. C'est-à-dire que les Afghans ont bouté hors de chez eux à la fois les Britanniques et les Russes.
Ava, Ken, Sherlock Holmes avec beaucoup de cheveux, très fringant.
Écoutez,
joli garçon.
Je vais pas faire de suspense. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de mourir à petit feu, hein, en regardant la série. Parce que, franchement, mais tant de laideur, ça m'a, brûlé les yeux, la photo, les ralentis, l'abus d'effets de style en tout genre pour donner quand même un semblant de caractère.
Oui, il y en a un peu beaucoup, hein.
À tout ça, ouais, c'est quand même affligeant. Et puis, la série ne sollicite pas non plus beaucoup notre cerveau. Alors, vous allez me dire que parfois, ça fait du bien, hein, de passer se faire des nœuds à la tête. Sauf que là, j'ai jamais été divertie, mais jamais, par aucun des épisodes. Et je vous avoue même que je suis pas allée jusqu'au bout, honte à moi. J'ai lâché la rampe, en fait, parce que les épisodes sont très emberlificotés, les intrigues, ça manque d'épaisseur en même temps, tout ça pour ça. Et je trouve que les personnages manquent aussi d'épaisseur, à commencer par notre Sherlock Holmes, qu'on croirait sorti de Penny Dreadful, hein, mal peigné, mal rasé, le sourire narquois, et la représentation de Jack l'Éventreur, mais au secours, elle est hyper ringarde, ça frôle quand même la parodie. Voilà, moi je peux aimer le kitsch et voilà, les séries comme ça tirées par les cheveux. Sur le papier, ça me bottait plutôt les aventures de Sherlock à Saint-Pétersbourg, mais là, la série, elle se plante partout, même dans le choc des cultures, qui n'est finalement qu'une vitrine. Je trouve que le mélange de langues, de tonalités ne fonctionne pas, que les acteurs, globalement, jouent comme des patates. On avait parlé dernière, bah ouais, la saison dernière, on avait parlé des Irréguliers de Baker Street, qu'on n'avait pas franchement adoré, oui. Mais à côté de ça, permettez-moi de vous le dire, c'était un chef-d'œuvre, effectivement. Et je commence un petit peu à en avoir marre, en fait, de ces séries qui veulent revisiter à tout prix l'univers de Sherlock Holmes. On peut peut-être passer à autre chose, et passer à autre chose, ça ne veut pas dire nécessairement faire voyager notre héros sur d'autres continents. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je m'acharne sur cette série qui ne m'a rien fait. Enfin, c'est juste le problème, en fait, elle ne m'a rien fait. Pardon.
Donc un Sherlock sur la Lune...
Je m'arrête là.
Vous arrêtez là ?
Ouais, terminus.
Je suis hélas au regret de vous dire qu'après avoir arrêté tant de meurtriers, Sherlock a trouvé plus fort que lui, c'est-à-dire les trois critiques d'une heure en série qui l'ont terrassé et qui l'ont mis à bas. Donc, pardon, cher Sherlock, mais pour une fois, vous avez trouvé plus fort que vous.
Un cadavre exquis, un revolver. Dans les journaux, l'homme est cruel. Les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens.
On laisse.
C'est idiot.
Petit petit jeu par Ours et M, extrait de Mitsuko, le quatrième album d'Ours, de son vrai nom Charles Souchon, désormais exilé à Bruxelles. Un fils d'eux, hein, donc, on l'a compris, qui a su trouver son style, ses portes d'attache musicaux et amicaux, comme M, autre fils d'eux, avec lequel il entonne ici une balade empreinte de soleil, de chaleur et de bienveillance. Ours vient de débuter une tournée et sera en concert les 23 et 24 novembre au Café de la Danse à Paris et à Bruxelles le 25.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment d'un conseil littéraire et je vous invite à découvrir « Sur l'île noire » de Sonia Delzong, paru aux éditions Paulsen. Partant du principe, fort défendable pour quiconque aime comme moi les mystères insolubles, que si Miss Marple et Hercule Poirot s'étaient penchés sur le cas du monstre du Loch Ness, affectueusement surnommé Nessie, eh bien ça ferait belle lurette que nous aurions découvert ce qui se trame derrière les apparitions lugubres de ce monstre supposé à écailles. Dans ce roman, on va dire, où l'autrice se fait détective, elle mêle à son tour des investigations autour du lac mystérieux, entre les landes qui sentent bon le limon et les pubs pleins d'effluves de houblon et de whisky que connaît si bien Benoît Lagan. Elle rassemble les pièces du dossier, rencontre les fans de la bête invisible, compare les hypothèses et confronte les opinions. Alors d'un côté, il y a la science hein, qui, ayant analysé les eaux du Loch Ness, voit dans la composition de celle-ci l'impossibilité de l'existence du monstre, puisque simplement il ne pourrait pas s'y nourrir. Un peu triste comme hypothèse. De l'autre, il y a les croyances, on pourrait presque parler de foi, qui, depuis 1933, date des premières apparitions, ou encore dans les années 50, où tous les voyageurs, d'un même quart, jurent avoir eu la vision d'un long serpent nageant dans les eaux sombres, en passant évidemment par les nombreuses photos truquées ou non. Eh bien, tout cela a créé et propagé le mythe, un mythe sur lequel revient donc Sonia Delzong, qui nous fait plonger dans cette légende avec l'excitation d'une petite fille avide de mystère et la rigueur d'une femme de lettres enquêtrice. C'est un pur délice, Sur l'île noire, de Sonia Delzong, paru aux éditions Paulsen. Des agents secrets ayant décidé de ne plus dissimuler leur homosexualité ont été mis au placard par leur hiérarchie, avant d'en sortir à leur manière exubérante et assumée. Q Force sur Netflix, une série en 10 épisodes d'animation totalement ironique. Q, c'est pour queer, puisque cette Q-Force rassemble en son sein des agents secrets LGBTQI+, ça devient compliqué de dire tout ça en une phrase, longtemps ostracisés mais qui ont décidé que l'on pouvait être différent tout en servant son pays dans l'ombre. Ces agents très spéciaux, menés par Steve Meriwether, surnommé Mary, vont enquêter sur la disparition d'une cargaison d'uranium, se battre pour leur reconnaissance et un monde plus libre, entraînant dans leur aventure arc-en-ciel un agent très très hétéro.
Hey, Twink!
Oh, hey, girl!
That's my job, Daddy. Right?
We're Q-Force. We're the first queer agents in the field ever.
Awesome. That's called an entrance, by the way.
We're the best spies in the world!
Don't hit me hard right now.
That room's empty. I wasted all that masculinity on nothing.
Not nothing. My little butthole went boop.
Damn it. You can't pander to the gays. They can smell it. You're acting like Citibank at Pride.
Q-Force, une série créée par Sean Hayes, connu pour son rôle de gay extravidi, d'Uber gay, pourrait-on dire, hein, dans la série Will and Grace, et Michael Shaw, producteur scénariste ayant travaillé sur The Office, ainsi que sur Parks and Recreation, avec au générique vocal par Sean Hayes, évidemment, et Wanda Sykes, connu pour son engagement LGBTQI+, une série certes libérée, mais est-elle pour autant libératrice, avec un point d'interrogation. Q-Force a divisé la presse outre-Atlantique, certains lui reprochant un abus de stéréotypes et de clichés d'un autre temps, d'autres saluant en revanche une avancée pour son mélange de la série de genre et d'humour queer. À vous de choisir, qui vais-je choisir pour amorcer ce débat? Bah, peut-être la personne la plus à distance de cet univers-là. Ouais. Benoît Lagan.
Alors moi j'ai bien aimé l'idée de départ qui fait de Q-Force une sorte de Scooby-Doo LGBT+. Voilà, parce que je trouve vraiment que c'est ça la bonne idée.
Scooby-Doo était déjà très LGBT.
Mais oui, c'est justement, c'est l'argument que j'allais apporter juste derrière cette information, c'est que.
Les films avec les arguments derrière, là, on va essayer de.
Ça, c'est votre esprit va tourner.
Samedi soir.
Alors, donc vous aviez un argument derrière. Oui.
C'est qu'effectivement, toutes les séries animées ou pas qui mettent en scène des Scooby Gang ont forcément un discours sur les personnes différentes. Et donc forcément, c'est des séries qui ont parlé à la communauté gay avant d'en faire un vrai discours. Donc il y a la bonne idée de départ de cette série de repartir sur cette base-là. Et ça, c'est la très très bonne idée. La série fonctionne très bien, et on l'entendait par rapport à son humour, parce que, par ailleurs, l'animation est animée comme il parle. Donc vous pouvez juste aller écouter, juste au son, imaginer comment ça peut être animé.
C'est assez cru, on l'a entendu dans l'extrait.
C'est assez cru, c'est plutôt bien fait, ça fonctionne bien. Les personnages sont effectivement très caricaturaux et à la fois ils sont très justes et très touchants. Ce qui n'est pas souvent le cas dans des séries animées qui fonctionnent sur l'humour. Moi, au fond, le problème que j'ai avec cette série, c'est que ça aurait pu être l'aventure de ces espions. Aurait pu être haletante. On aurait aimé être pris dans l'enquête avec eux. Or, on n'est jamais pris par l'enquête. C'est purement anecdotique. Et au fond, au bout des épisodes, moi, je finis par en avoir... Bon, j'ai compris, quoi. 5 et 6 épisodes. Ok, d'accord, je me suis bien marré. J'ai passé un bon moment. Je ne regarderai pas plus que ça. C'est peut-être dommage parce que il y a quand même des personnages, notamment ces personnages de... Vous savez, ces chefs qui sont en fait très méchants, mais qui veulent être gentils. Eh ben, ils sont très bien caricaturé, je trouve, dans la série, et j'aurais aimé voilà, en voir beaucoup plus.
Ava Cain, cette semaine où on a vu quand même CNews débattre toutes les heures sur le fait que le fils de Superman serait bisexuel, ils ont quand même pas grand-chose à foutre sur CNews, voilà, en disant que c'était du prosélytisme gay, enfin... Mon Dieu, autant de bêtises dans si peu de temps d'antenne. Cher Ava, qu'en avez-vous pensé de Q-Force?
Ça, c'est ben, pour vous. Pour ma part, ouais, j'ai aimé, et je dis pour ma part parce que j'ai lu effectivement la critique du Guardian qui flingue la série en quelques lignes, l'accusant de se complaire dans des clichés et représentations stéréotypées, sauf que je pense comme toi Benoît, que la série a beaucoup de dérision en fait, et qu'elle ne se complaît pas mais qu'elle assume au contraire toutes les originalités, toutes les exubérances, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et de faire un clin d'œil à Ariana Grande bien sûr, nouvelle icône gay, c'était tout pour moi. Moi, ces personnages, je les ai trouvés flamboyants, j'avais envie de faire partie de leur bande et de traquer les vilains avec eux, je me suis attachée à ces personnages comme s'ils étaient faits de chair et d'os, alors ne dites pas ça à mon psy parce qu'il va penser que je vais très 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 mal. Bref, c'est très drôle, les dialogues sont justes, les situations aussi, l'arrivée de Marie, le héros tout en muscles, voilà, à West Hollywood par exemple, et ben là, on voit bien hein, qu'on se moque de ceux qui se moquent, donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est bien l'autodérision de la série, et puis tout en gardant toujours la pêche et la banane, la série mine de rien raconte aussi des choses bien réelles hein, comme l'homophobie dans l'armée américaine parce que c'est quand même le point de départ de cette histoire, hein, comment un jeune homme gradé, major de sa promotion va se faire placardiser par sa hiérarchie et comment, en unissant les forces avec ceux qui connaissent le même sort que lui, et ben ils vont finir par sortir de l'ombre ensemble. Donc voilà, moi je trouve que c'est une super buddy série, donc une série sur l'amitié, sur la vie en communauté, et voilà, je trouve ça très réussi. Je crie pas à la révolution ou au chef-d'œuvre, mais ça donne envie de mettre de la couleur partout chez soi, d'écouter très très fort du Dua Lipa et du Britney Spears. C'est peut-être cliché, et alors hein, voilà.
Je suis entièrement d'accord. Il y a même un petit clin d'œil à Mission Impossible avec un personnage qui se transforme à vue comme le personnage de Martin Landau.
Ah, dans McBeal la... aussi, il voilà, y a plein de références.
Il y a plein de références et c'est vrai que Benoît l'a dit, ça rassemble toutes ces petites traces, on va dire, d'homosexualité placardisée, sous-jacente, qu'on a connue dans les séries américaines et ça fait quand même un bien fou à prendre évidemment au second degré, mais tant mieux parce que c'est aussi le but du programme. Chère Marjolaine.
Oui, c'est effectivement délicieusement à la fois progressiste et régressif et c'est une vraie ode à la culture queer parce que c'est vrai que c'est plein de références, plein de punchlines. Alors oui, l'intrigue principale, elle est totalement en bois. Ouais. Bon, voilà, il faut le dire. Mais vraiment, chaque ligne de dialogue et effectivement ce personnage de transformiste Twink, donc doublé par Matt Rogers en VO, qui est un podcasteur et un doubleur vraiment de grand talent, qui est aussi un des scénaristes de la série, puisqu'il a écrit mon épisode préféré, qui est Europe Vision. Et déjà, Netflix avait fait cette pépite de film qui est Eurovision, qui moi avec m'avait ravi. Et alors là, vraiment, cet épisode, on est à fond vraiment dans la culture queer.
Nos auditeurs, rappelez que l'Eurovision est un programme très gay-friendly, en tout cas que les gays adorent.
Complètement, complètement, et qui en joue, et c'est tout à fait assumé. Je trouve aussi Wanda Sykes très bien dans le rôle de Deb, la mécanicienne lesbienne au grand cœur. Et là aussi, je trouve que c'est un personnage qu'on voit beaucoup moins souvent que les folles flamboyantes, et son histoire d'amour avec sa femme, je la trouve vraiment très très touchante. Il y a plein de voix qu'on connaît. Il y a donc Gary Cole qui fait le grand méchant. Gary Cole, c'est le formidable Kurt McVeigh dans The Good Fight. Il y a vraiment beaucoup de talent. Et je crois que oui, l'intrigue principale les a pas beaucoup intéressés, mais il y a du rythme, il y a de la punchline. Et Ouais, c'est la culture gay et ça donne envie effectivement d'écouter Britney Spears et de sortir un drapeau à ses fenêtres et c'est plutôt bien.
Bon, si je résume ce débat, en gros, on peut commencer à construire notre char pour la prochaine Gay Pride, le char une heure en Syrie. Et je vous y invite toutes et tous, bien sûr. Les Parcels. Les Parcels, ce sont 5 Australiens très propres sur eux qui, en 2 albums, frais étant extraits de leur tout dernier, peaufinent un style qui fleure bon les années 70, à la fois par sa rythmique funk et ses voix aiguës, référence qu'ils assument également dans leur tenue vestimentaire. C'est très moulant d'en haut et assez large d'en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Tout en réactualisant néanmoins cette mouvance musicale avec un ajout bienvenu de percus, de cordes et de piano pour un titre acidulé qui colore à merveille notre automne naissant.
France Inter. Une heure en série.
L'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan qui s'y connaît en pantalon moulant, bien sûr.
Totalement.
Et dans l'effet miroir ce soir, cher Benoît, vous revenez sur le voyage dans l'espace de la semaine, un événement une fois plus très médiatisé.
Exactement, puisque c'est cette semaine que le célèbre héros de la série Star Trek, le capitaine Kirk, s'est envoyé en l'air pour partir dans l'espace. Enfin, le comédien William Shatner, qui a endossé le costume du capitaine de l'Enterprise durant les 3 saisons et les 79 épisodes de la première série, et puis de la saga au cinéma, qui ont prolongé l'aventure. Capitaine Kirk, le héros de Star Trek original, est donc monté à bord de Blue Origin, la fusée du milliardaire Jeff Bezos, 55 ans après la diffusion du tout premier épisode de la série. C'était en septembre 66. Alors, si tous les médias ont relayé le voyage qui s'est déroulé mercredi, c'est que forcément l'événement avait quelque chose de symbolique. Enfin, un gros coup de com' surtout pour le patron d'Amazon qui, pour une fois, n'a pas envoyé le coffret de l'intégrale de Star Trek dans une boîte en carton en moins de 24 heures du point de retrait au domicile, mais carrément l'acteur de la série pour un voyage dans l'espace en 11 minutes chrono.
Bravo.
Mercredi, William Shatner a pu mettre en vrai la tête dans les étoiles et Jeff Bezos fait encore parler de lui. L'ex-capitaine Kirk a 90 ans et donc la personne la plus âgée à être partie dans l'espace. À bord de la fusée New Shepard, qui est automatisée et réutilisable, composée d'un lanceur et d'une capsule qui se détache en vol, la capsule est alors propulsée. Kirk a décollé à la verticale avec trois autres camarades. Et l'espace, comme le dit le générique de Star Trek, cette frontière de l'infini, mercredi, c'était surtout pour Shatner et sa patrouille du cosmos de dépasser la ligne de Kármán qui marque à 100 km d'altitude la frontière conventionnelle de l'espace. Dès lors, Shatner et ses compagnons n'ont pas croisé un seul Vulcain, non. Ils se sont juste retrouvés en apesanteur quelques minutes avant de retomber, comme l'écrit l'AFP, freinés par trois parachutes et un rétropropulseur. Et William Shatner, de retour sur Terre, de déclarer « C'est incroyable ! Incroyable !»
Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Et Shatner, d'ajouter, sortant de la capsule spatiale, vous voyez, il y a des petites choses, mais quand vous traversez cette couche bleue et que vous vous retrouvez dans l'obscurité, c'est là qu'il se passe vraiment quelque chose. L'enveloppe du bleu, ce drap, cette couverture, ce bleu consolateur, et soudain, vous filez. Au travers, vous baissez les yeux, il y a le bleu en bas et le noir en haut. C'est la terre-mer, le confort. Et là-haut, est-ce la mort? Je ne sais. La mort ressemble-t-elle ça? Oh Jesus! C'était si émouvant. Happy end. Voilà que Kirk tombe dans les bras de Picard. Enfin, William Shatner qui tombe en larmes dans les bras de Jeff Bezos. À la vue des images filmées et relayées sur toutes les chaînes poubelles d'Info Continue, alors que je verse facilement une larme, comme Charline Gass dans sa prairie, devant une telle communication pour un saut dans l'espace de 11 minutes, ça ne m'a rien fait. Oui, le voyage de la star Kirk dans l'espace, c'est vraiment un petit pas pour l'homme, mais un grand pas surtout au profit de Jeff Bezos. D'autant plus que tout ça est hyper paradoxal, parce que si on apprend quelque chose de la série Star Trek, dont le dernier épisode, je le rappelle, a été diffusé à peine quelques jours avant qu'Armstrong et ses camarades posent, eux, leur premier pas sur la Lune, au nom de toute l'humanité, c'était en 1969. Une série qui a vu le jour dans un contexte de guerre froide où croire en la paix des peuples était vital. Eh bien, ce que Star Trek nous apprenait entre 66 et 69, c'est que le voyage vers l'infini dans l'espace avait une dimension universelle. L'Enterprise démontrait qu'il valait mieux balayer tout égoïsme au profit de l'expérience de la rencontre collective avec les autres peuples vers d'autres cultures. En 2021, donc William Shatner, 55 ans après, aussi ému soit-il, nous rappelle juste à quel point l'homme est égoïste et surtout aucun sens des responsabilités environnementales. Un énorme paradoxe spatio-temporel, alors que les Space Opera et la SF, eux, nous imaginent des voyages dans l'espace afin de mieux nous faire saisir que notre Terre n'est pas éternelle. Bref, moi je vous dis téléportation, et surtout, si on balançait nos abonnements Amazon dans la stratosphère.
Merci beaucoup, cher Benoît Lagan, pour cet effet miroir que vous pouvez bien évidemment réécouter en podcast sur le site de l'émission. Vous êtes bien ce soir dans Une Heure en Série sur France Inter avec Marjolaine Boutet, Ava Cahen et Benoît Lagan. L'avenir de l'humanité est menacé. Sa survie ne tient qu'à un fil, celui des connaissances acquises par l'homme depuis des millénaires. Vous aurez reconnu le postulat de départ du roman éponyme d'Isaac Asimov, Foundation, un roman réputé inadaptable et néanmoins devenu une série américaine en 10 épisodes disponibles sur la plateforme Apple TV. Dans le futur du 13e millénaire, l'Empire règne sans partage sur la galaxie. Puissance omnipotente qui connaît son apogée, jusqu'à ce qu'un savant, Harry Seldon, ayant inventé le principe de la psychohistoire, qui, pour faire simple, prédit le futur grâce à la science, est évidemment bien plus compliqué que ça, mais je ne vais pas vous emmerder. C'est grâce à cela que Seldon prévoit l'effondrement de l'Empire et annonce le début d'une ère des ténèbres qu'il estime à 30 siècles. Mais ce Cassandre des temps modernes prédit que cette sombre période pourrait être réduite grâce à la création de la Fondation basée sur le rassemblement de toutes les connaissances humaines. Mais son projet de fondation se heurte au déni et à l'hostilité de ses contemporains.
Quand j'étais petite, aux confins de la galaxie, j'ai entendu des histoires au sujet d'un homme capable de prédire l'avenir. Son histoire est restée obscure pour moi pendant bien des années. Jusqu'à ce que cette histoire devienne la mienne. jusqu'à ce qu'elle devienne la seule histoire.
Vous connaissez mes travaux ? La psychohistoire ?
Naturellement, tous les mathématiciens ont lu votre théorie.
Ce n'est pas juste une théorie. C'est le destin de toute l'humanité représenté par des chiffres. Et l'Empire n'aimera guère l'avenir que je prédis.
Nous sommes maintenant aux portes d'une crise.
C'est ça le plan. Il est trop tard pour faire demi-tour.
Foundation, une série créée par David S. Goyer, scénariste ayant travaillé sur la trilogie Dark Knight, ainsi que sur le scénario de, très oubliable, Batman contre Superman. Nanar. Il est secondé dans la tâche ardue d'adapter les romans d'Isaac Asimov par Josh Friedman, qui a travaillé entre autres sur la version de Steven Spielberg de La Guerre des Mondes, ça c'était pas mal, et sur la série Snowpiercer. Côté générique, on retrouve Jared Harris dans le rôle de Seldon, Lee Pace dans celui de l'Empereur du Milieu. Faut expliquer que l'Empereur est en trois versions, enfant, adulte et vieillard, et ainsi que la jeune Lou Lobel. Alors, côté de la presse, Le Monde parle de 10 épisodes spectaculaires qui reposent sur une structure narrative austère, c'est le moins que l'on puisse dire. Cher Ava.
Eh ben, on vient de l'entendre dans la bande-annonce, hein, trop tard pour faire demi-tour. bah voilà, hein, moi j'ai pas du tout accroché avec cette série. C'est du soap-opéra tout plat, tout mou, un mélange de Star Wars, de Star Trek, de Divergente, de Dune et autres sagas SF populaires avec en son cœur une lutte contre le bien et le mal évidemment et une réflexion sur le pouvoir, sur l'humanité, sur le temps et l'espace, mais sous l'exo. Alors vraiment, hein. Donc dès le premier épisode, effectivement, on nous annonce que l'univers va entrer dans l'ère des ténèbres, qu'il y a des batailles intergalactiques qui vont secouer les cieux et les planètes. Donc il y a des belliqueux, il y a des rebelles, il y a des pacifistes, il y a des magiciens, il y a des mathématiciens prophètes, il y a des politiciens, des jeunes, des vieux. Bref, il y a du conflit, il y a des trahisons, des complots politico-scientifiques super compliqués, des intrigues de vaisseaux, des intrigues sentimentales. Et alors, vous allez me dire, mais moi je devrais aimer,
mais
puisque
voilà,
Game of Thrones...
Mais voilà, vous poser comme question.
Que pas du tout. C'est vraiment chiant comme la pluie. Alors le problème, c'est qu'en fait c'est très long à la détente. Il y a un rythme vraiment mais hyper bizarre qu'on éprouve du début à la fin. Alors bien sûr que ça a de la gueule. Je rejoins la critique du Monde qui dit que c'est spectaculaire et j'ai envie de dire heureusement parce que
c'est spectaculaire. Deux minutes sur chaque épisode d'une heure.
Mais ça sauve quand même un petit peu cette série. Voilà le décorum, l'architecture, les costumes, les effets spéciaux. Voilà. Mais il manque vraiment une vibration. Les personnages manquent de chair, manquent d'épaisseur. À part le personnage de Gal, je me suis attachée à absolument personne. Alors bien sûr, la série nous tend un effet miroir, hein, elle projette comme Game of Thrones des peurs très contemporaines, sauf que j'allais le dire, c'est un peu le boulot de la SF en règle générale, donc ça n'a pas réinventé la poudre. Donc voilà, je vais m'arrêter là aussi.
Mais vous êtes en pleine forme, cher Ava. Marjolaine Boutet, vous acquiesciez du regard et du visage pendant qu'Ava parlait, donc je pense que malheureusement, Foundation, pareil quoi.
Je suis totalement d'accord. Foundation, c'est un des chefs-d'œuvre de la science-fiction. Oui. Hein. Il faut le dire quand même, Isaac Asimov. Mais Isaac Asimov n'écrit pas une saga. Hein. Il fait effectivement, en pleine guerre froide, on y revient, une réflexion sur le monde contemporain, la politique, etc. Et là, on est dans des paysages magnifiques. Vraiment, si vous voulez vous faire des fonds d'écran, moi j'avais l'impression, vraiment le premier épisode, d'être sur un slide de fond d'écran des années 90, avec des ciels mauves, voilà, des planètes, trois lunes, etc. C'est très très beau. Les costumes sont complètement absurdes. Les dialogues sont incompréhensibles, mais assénés.
Il y en a beaucoup en plus. Il y en a
beaucoup.
C'est
très bavard.
Mais assénés avec un sérieux de pape, ouais, par des acteurs qui, dans ce truc-là, sont vraiment formidables. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien à jouer. Donc, on ne s'attache pas du tout à eux. Il ne se passe effectivement rien. Dans le premier épisode, il faut attendre plus d'une heure pour qu'enfin il se passe quelque chose. Et boum, l'épisode s'arrête et ça reprend pas. Et l'épisode 2 reprend pas du tout sur ce qui s'est passé. On est 35 ans plus tard et tout. Et là, ok, on ne comprend rien. Les personnages durent deux épisodes et puis s'en vont. On est complètement paumé. Et moi, j'ai l'impression, effectivement, petit plaisir des yeux, la musculature de Lee Pace, qui est mise en scène de façon absolument
incroyable. On le rappelle,
incroyable.
L'empereur du milieu,
et l'empereur
oui,
du
middle
milieu.
Age, mais assez sexy. Hein, quand
oui,
même.
Beaucoup de sourcils.
Ah, mais on ne voit que ça, que du pec et du sourcil. Et alors quand même, je dis que dans le troisième épisode, donc ils sont trois, hein, empereur, il y a un jeune, un adulte, donc Lee Pace, et un vieux. Dans l'épisode 3, on sait que le vieux va finir par mourir parce qu'il faut qu'il soit remplacé par un plus jeune. Et ben, ça met 20 minutes. 20 minutes sur un épisode de 50. Chut, voilà. Moi aussi, j'ai perdu un peu d'espérance de vie en regardant cette série.
J'ai l'impression que vous m'en voulez effectivement de vous avoir un tout petit peu volé 10 heures de votre vie.
Ouais.
Voilà. Tout en pec et en sourcil, ben voilà la définition, j'allais dire parfaite, et d'une justesse sans nom de Benoît Lagane.
Mais moi, ça m'a pas tant déplu que ça, Fondation. Mais non, mais c'est vrai, quand j'avais vu Game of Thrones sur HBO, parce qu'il faut dire que dans la série blockbuster de série, HBO a eu son GOT, Amazon va nous vendre Le Seigneur des Anneaux bientôt, Netflix cherche encore quelque chose, et du coup Apple TV+, ils nous sortent Fondation. Et donc moi, je regarde ça, au fond, Game of Thrones, ça m'avait désespéré au premier épisode. Là, finalement, j'ai été pas mal pris par cet univers-là, j'ai trouvé que c'était attachant. J'en reviens du coup à ce que tu dis, Marjolaine, de façon très juste, c'est que on s'attache à des personnages tout de suite. Moi, j'ai vraiment été attaché par les personnages principaux, même si je comprenais pas tout. Mais quand je regarde de la SF, je comprends pas tout, mais je suis embarqué par l'univers. C'est le principe. Donc, je pars, je me laisse embarquer. Et c'est vrai que là, bam, on nous coupe ces personnages qu'on aimait bien, auxquels on s'était attaché assez vite. Si on a réussi à être attaché assez vite, c'est que le récit est quand même plutôt bien écrit, je pense. Ensuite, la bonne idée, je trouve, aussi, de cette série, c'est que pour une fois, on nous rejoue pas le Shakespeare à toutes les sauces. Fini Game of Thrones Succession. Là, c'est, on rejoue ce que jouait Star Trek des origines. C'est-à-dire les dieux grecs, enfin cet univers-là.
C'est de la tragédie antique.
De la tragédie antique plutôt. Du coup, l'esthétique, qui est moi je trouve un peu toc, je l'accepte parce que ça, il y a ce deal-là de départ. Et ensuite, j'ai vraiment avancé petit à petit. Certes, un rythme très lent, mais presque comme quand on écoute une lente et douce symphonie. Enfin, vraiment, je me suis laissé porter par cet univers-là.
Oui, enfin, c'est une symphonie de Richard Clederman.
ça, c'est vous qui le dites.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous lancez une piste de réflexion. C'est que ça fait partie de ces romans inadaptables, comme Dune, qui vient de sortir au cinéma dans la mise en scène de Denis Villeneuve, qui ont tellement été inadaptables, effectivement, que du coup, tout le monde a pioché dedans. Et c'est terrible, parce que voir les adaptations aujourd'hui, ça signifie revoir toutes ces œuvres de space opéra qui sont allées chercher des bouts de Isaac Asimov. Le premier épisode s'ouvre sur un monolithe suspendu dans l'air. On ne peut pas ne pas penser, évidemment, à 2001, Odyssée de l'espace. Et on passe son temps à reconnaître comme ça des petits éléments de ce qui a nourri notre mémoire de l'ASF depuis les années 70 et qui donne du coup un coup de vieux immédiat aux adaptations des romans originels.
Oui, et à la fois, par rapport au livre, ils sortent très souvent du livre pour inventer des choses, ce qui est un bon parti dès le départ, parce qu'au moins le lecteur fan du roman sait qu'avec cette série, il utilisera le socle littéraire juste comme un point de départ pour créer de nouveaux personnages, la place des femmes, par exemple, est très présente là dès le début de la série, ce qui n'est pas le cas dans le livre. Donc du coup, tout ça, moi, je trouve que c'est des bonnes pistes et j'ai envie que ça continue, en fait.
C'est vrai qu'ils nous rajoutent des femmes et des terroristes pour donner un petit côté.
Moi, je laisse ma place à Benoît dans le vaisseau.
Ce que je vous propose, cher Benoît, très simplement, vous regardez la saison 2, puis vous nous la raconterez.
Voilà,
ce sera cela. Bon, en tout cas, je ne sais pas combien de temps durera l'ère des ténèbres, mais en tout cas, malgré la défense formidable de Benoît Lagane, j'ai l'impression que pour la série Foundation, elle a un tout petit peu débuté. Voilà, Foundation sur Apple TV.
M'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. Par cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale.
faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie.
Contact par Brigitte Bardot, une chanson de 1967, créée, dois-je le préciser, par Serge Gainsbourg, bien évidemment, pour l'icône des années 60, folie musicale psychédélique qui prend les codes du yéyé à rebours pour accoucher d'une chanson tellurique, indémodable, vénéneuse et indémodable. Je l'ai écrit deux fois, donc je vais le lire deux fois. Et qui nous rappelle cruellement que Bardot ne fut pas toujours la réac aigrie qu'elle est hélas devenue.
France Inter. Une heure en série.
Et nous avons un peu de temps pour le plateau télé, ça tombe bien parce qu'il est très riche. Et Marjolaine, vous nous recommandez de découvrir une série féministe, prolétaire, qui s'appelle Made et qui passe sur Netflix.
Oui, Made, c'est vraiment, je pense, un de mes très grands coups de cœur de l'année. C'est un drame social très dur. Une sorte de Ken Loach dans le nord-ouest des États-Unis. Donc on est entre Portland et Seattle, mais on est vraiment très très loin des villes. Le thème principal de cette série aussi, c'est la violence conjugale et la difficulté de s'en libérer. Donc on est vraiment dans des trucs pas très gays. Tout ça est illuminé par les grands yeux de Margaret Qualley, qui prouve ici qu'elle est une grande actrice, ah oui. En plus du charme et de la fougue qu'on lui connaît depuis les pubs Kenzo où elle dansait follement. Elle partage l'affiche avec sa mère, Andie MacDowell, tout aussi formidable dans un rôle de mère bipolaire, aussi horripilante qu'émouvante. Ces 10 épisodes terribles montrent que la pauvreté rend tout plus difficile, que le moindre accident de la vie devient un drame, que la moindre amende vous plonge dans la pauvreté, que la perte d'une voiture vous rend prisonnier de l'endroit où vous vous trouvez. Et il faut compter en permanence. Et c'est très bien montré en incrustation dans les images, qui est une superbe idée de mise en scène. C'est vraiment très beau, très bien filmé. Et à voir absolument, pour tous ceux qui pensent que sucrer 5 euros d'APL, c'est rien.
C'est très juste. Ouais, c'est juste en deux mots, rappelez que voilà, c'est une femme qui fuit un amour toxique, une relation difficile et douloureuse.
Qui essaye. C'est une jeune femme, une jeune mère, parce que c'est évidemment des histoires de mère et de fille sur trois générations, qui essaye de fuir son environnement familial et en particulier le père de son enfant avec qui elle a une relation toxique. Mais c'est aussi voilà la difficulté de s'en sortir, de connaître ses droits quand on a accès à rien, quand on est pauvre. Et c'est aussi vraiment une sorte de parabole sur cette idée du mérite dont on parle beaucoup en ce moment et que non, la volonté, ça ne suffit pas pour en sortir. Ce qui est extrêmement intéressant aussi dans cette série, c'est que tous les sauveurs ou ceux qui essayent de l'être sont noirs et que la victime est blanche. Et je trouve que cette inversion est vraiment intéressante. Voilà, c'est un portrait des États-Unis d'aujourd'hui. Ça fait penser à Nomadland. Ça fait penser à... Enfin, vraiment, moi, c'est une série qui m'a bouleversée. C'est très dur à regarder. Il y a 10 épisodes dont on ne sort pas indemne. Mais vraiment, je vous recommande cette odyssée-là, parce qu'on en sort grandi et voilà, c'est très beau et c'est une vraie histoire de femmes au pluriel.
Ça pourrait être du Guédiguian aux États-Unis, ouais. Et sur le fait qu'on incruste effectivement sur le bord de l'écran l'argent au détail près, au centime, il y a des chiffres après la virgule. Nouveau une scène où elle décroche un boulot de femme de ménage et elle sait déjà qu'elle va travailler pour rien les trois premières heures parce qu'il faut qu'elle achète d'elle-même, de son propre denier, tous les produits dont elle va avoir besoin et on voit ce décompte fatal qui fait qu'effectivement elle est en train de bosser.
Oui, sur le travail de femme de ménage.
Voilà, c'est absolument formidable, on est bien d'accord, c'est engagé, c'est militant et c'est féministe, donc obligatoirement on cautionne. Changement de registre,
transition.
Voilà, absolument. Un unitaire.
Et voilà, je déroge
sur Canal,
un peu à la
mais non,
règle.
Mais fortement inspiré d'une grande série mythique qui fait mal aux yeux, qui pique beaucoup quand même.
Oh, il y en a plein.
Des années 80, mais vous allez nous raconter tout ça. Je veux parler de La Vengeance au triple galop d'Alex Lutz.
Tout à fait, ça dure 1h40. C'est écrit, co-réalisé et joué donc par Alex Lutz. Mais je vous en parle justement parce que c'est un hommage tout en brushing volumineux et ultra laqué à nos soaps préférées.
C'est un truc qui tue la couche d'ozone, ce qu'il en reste. Hein,
d'accord.
Voilà,
d'accord. Pas très éco-friendly, comme on dirait. Alors, c'est les feux de l'amour, hein, en passant par Amour, Gloire et Beauté, par Dallas, par Côte Ouest. Alors, c'est l'histoire d'une...
Surtout, quand même, une référence. La vengeance au double visage.
Ah bah, aussi, bien sûr. Ah bah oui. Non mais ça me. Bon, c'est vrai que le titre l'appelait directement, mais je parlais vraiment, voilà, de cette grande culture.
Oui, bien sûr.
Des soaps américains.
Et alors, des épaulettes dans les costumes. Hein,
complètement. Ah, ouais. Et le maquillage. Bon, tout est à tomber. C'est l'histoire d'une jeune héritière, hein, qui s'appelle Stephanie Harper, qui tombe amoureuse d'un tombeur, évidemment, baptisé Craig Daners. Mais trois semaines après leur coup de foudre, je mets des guillemets à coup de foudre, Craig Daners, qui est une star de la marche rapide. Alors, vous avez bien l'image en tête, hein, le petit short, tout et tout. Et ben, ce champion gominé met en place un plan machiavélique, supprimer Stéphanie, récupérer sa fortune et en jouir avec sa maîtresse, interprétée par Leila Bechti, absolument délicieuse. Mais Stéphanie Harper, évidemment, n'a pas dit son dernier mot. Donc on retrouve tous les standards, hein, amour, pognon, crime et trahison. Ça a de la gueule. Comme on le disait, les décors, les costumes sont fabuleux, les dialogues sont à pleurer de rire. Et puis, casting de rêve, c'est Audrey Lamy, hein, qui interprète Stéphanie Harper, Marion Cotillard, Leila Bechti, je l'ai dit, Guillaume Gallienne, sans oublier Gaspard Ulliel dans la peau d'un médecin looké comme Crocodile Dandy.
C'est-à-dire que même Gaspard Ulliel est capable de nous faire aimer la coupe mulée, ce qui est quand même un exploit.
C'est craquant, c'est un petit plaisir coupable et ça se regarde, donc je le répète, sur Canal+ ou MyCanal en ce moment.
Il n'y a pas de plaisir coupable, comme dirait Benoît Lagan, et je suis entièrement d'accord avec vous. C'est quand même savoureux, cette façon de revisiter le mythe de la grande série américaine jusque dans les détails. Mais en plus, Alex Lutz, qui est donc à la mise en scène, à la réalisation, et on se souvient de Guy, son film précédent qui était formidable. C'est-à-dire qu'il a vraiment utilisé aussi toute cette grammaire particulière de ces séries à grands coups. D'abord, il est allé emprunter des images toutes faites, évidemment.
De banque de données.
Voilà. Banque de données, de panoramiques improbables sur les jets privés qui font partie de cette série. Et en même temps, les décors sont très cheap, hein. Faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et on a ces travelling comme ça sur des personnages qui sont obligés d'écarquiller les yeux pendant 3 minutes en attendant que le plan finisse. Enfin, voilà. Et il y a une gourmandise dans le jeu des comédiennes et des comédiens qui est absolument savoureux. Donc, deux excellents choix. Merci beaucoup, mesdemoiselles.
Merci à vous.
Une heure en série, c'est fini.
Non.
Voilà, je sais, mais nous reviendrons la semaine prochaine. Oui. Mille merci à vous, Marjolaine, Ava et Benoît, d'y avoir participé à cette émission. Et bien sûr, merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé timidement, hein, quand même, cette semaine, Les Aventures de Sherlock sur Salto. Oui, pas beaucoup. Q4 sur Netflix, un peu plus. Là, le côté arc-en-ciel nous a motivés. Et Foundation sur Apple TV, qui, à part Benoît, nous est un peu tombé des yeux. La semaine prochaine, nous évoquerons sur cette antenne Terminal sur France 2, Y The Last Man sur Disney+, et L'Imposture d'Icide en VO sur Canal, excellente série policière. Demain soir, ne loupez pas Le Masque et la Plume à 20h, évidemment présenté par Jérôme Garcin. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, le site internet, vous pourrez trouver évidemment tous les contenus, toutes les séries dont nous parlons. Vous pouvez nous envoyer des courriers, il y a un compte Instagram. L'émission a été réalisée comme chaque semaine et comme personne, j'ai envie de dire, par Marianic Rimbaud, la programmation musicale formidable Valentine Chedbois, préparé avec Amel Kaldi, que dire, impeccable, et à la technique ce soir, le non moins formidable Fabrice Desmaz.